Ah, voilà, ok, ça marche. Ça marche, oui. Non, c'est que quand c'est au tout début, ça colle un peu, n'est-ce pas? Alors donc, le sujet, c'est le clonage. On va essayer de faire ça un peu de façon interactive. Donc, il s'agit de savoir si on peut cloner un être humain. Alors d'abord, il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est exactement un être humain. Alors voilà, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait un être humain? Qu'est-ce que c'est un être humain? Pierre-Luc, tu sais? Oui, mais tu décris un être humain. Comment un être humain est fait? Comment est-ce qu'on est fait? Bon, quand même. Qu'est-ce qui constitue un être humain? Qu'est-ce qui constitue un être humain?
C'est un être inconscient.
Non, mais je veux dire physiquement, qu'est-ce qui constitue un être humain? Ok, alors donc on va dire la chose d'abord. Un être humain, bon, dans chaque cellule de chaque être humain, il y a une étiquette. Cette étiquette est identique dans toutes les cellules. Donc, le corps d'un être humain a typiquement plusieurs milliards de cellules, voire même milliards de cellules. Et chaque cellule contient une étiquette. Cette étiquette a deux parties. La première partie dit « Je suis la cellule d'un être humain et pas d'une autre espèce. » C'est la partie générique de l'étiquette. C'est ce que nous avons en commun avec tous les autres êtres humains. La deuxième partie de l'étiquette dit « Je suis la cellule de cet être humain et pas d'un autre. » C'est la partie individuelle. Et cette étiquette, maintenant, on le sait que c'est de l'ADN, on appelle ça de l'ADN. Et cette étiquette est en fait une recette qui continue dans chaque cellule et qui dit à chaque cellule comment se reproduire. Parce que, à ce moment-ci, à chaque moment de votre vie, vos cellules sont en train de mourir et de se faire remplacer. Seules les cellules du cerveau ne se remplacent pas. C'est-à-dire, si une cellule du cerveau meurt, eh bien, elle n'est pas remplacée. Mais toutes les autres cellules du corps sont remplacées continuellement. Au rythme tel que, dans 7 ans, toutes les cellules de votre corps sont renouvelées. C'est-à-dire, il n'y a aucune cellule dans votre corps actuellement qui était dans votre corps il y a 7 ans. Sauf pour les cellules du cerveau, encore une fois. Donc, mais les cellules qui ont remplacé vos cellules il y a 7 ans ont la même recette et elles étaient reproduites par la même recette. C'est littéralement une recette. C'est littéralement un livre. Ce n'est pas une analogie, c'est littéralement un livre. Ce sont des suites d'entités et ça s'appelle des gènes et les gènes sont des recettes pour fabriquer des acides nucléiques Il en a quatre sortes. Et donc, vous pouvez penser, pour ainsi dire, qu'il y a un alphabet de quatre lettres. C'est littéralement cela, un alphabet de quatre lettres. Mais ça suffit, un alphabet de deux lettres, pour dire une infinité de mots, n'est-ce pas? Parce que, bon, nous avons 26 lettres dans l'alphabet latin, mais il y a une infinité de mots qu'on peut dire, n'est-ce pas? Parce qu'on peut combiner tant qu'on veut, et il n'y a pas de limite sur la longueur des mots, n'est-ce pas? Alors, qu'on a 4 au lieu de 26 lettres, on peut quand même dire autant. Okay? On peut dire autant, parce que vous avez toutes les combinaisons possibles, aussi long que vous voulez, de ces 4 lettres, qui sont les acides nucléiques. Et donc, un gène est une série de recettes qui dit « fabrique d'abord tel acide, et ensuite un autre, etc. » Donc, ça peut être plusieurs fois la même. Donc, ça veut dire, si on veut appeler les 4 sortes A, B, C, D, OK. Alors, ça peut être n'importe quel mot dans ces lettres. Ça peut être A, A, B, 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 C, D, C, D, 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 C, etc., etc. N'importe quelle combinaison est possible. Il y a aussi, dans ces recettes, ce qui correspond à des espacements de ponctuation. C'est-à-dire que ces cellules, ces entités, en fait, ces molécules, ne donnent aucune recette. C'est-à-dire, ils sont, pour ainsi dire, blancs. Mais ça permet donc de séparer certaines choses. C'est vraiment comme une ponctuation dans la langue. Et ça se lit... Oui, OK, on va voir. Oui, entrez. J'ai commencé en bon professeur, et puis, faute de réponse adéquate, j'ai commencé. On n'a pas attendu. Alors, encore une fois, c'est des séquences linéaires. Ok, ce ne sont pas comme des structures à trois dimensions. Ce sont des séquences linéaires. Donc, c'est littéralement comme un texte. Et ça se lit de gauche à droite. Mais aussi parfois de droite à gauche. Ça, c'est la seule différence entre... Donc, imaginez un texte écrit moitié en français, moitié en arabe, si vous voulez. Okay? Donc, on peut le lire de droite à gauche ou de gauche à droite. Mais seulement d'une façon. C'est-à-dire, on ne lit pas les deux façons la même suite. C'est-à-dire, ça se lit soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, mais jamais les deux. Donc, à toute fin pratique, on peut dire que ça lit d'une seule façon, parce qu'il a une lecture unique. Okay? Donc, c'est littéralement un livre. C'est littéralement un texte. D'ailleurs, enfin, je fais une petite intervention. Il a une théorie mathématique qui s'appelle la théorie des systèmes formels. C'est le système des langages formels. C'est la base de l'ordinateur, par exemple. Enfin, c'était un sujet dans lequel j'étais spécialisé moi-même. Et le premier papier mathématique que j'ai publié, c'était sur les systèmes formels. Et j'ai reçu la nouvelle à peu près un an après que ce papier que j'avais écrit a été appliqué par des généticiens, des gens qui étudiaient la génétique à Berkeley, en Californie, n'est-ce pas? Donc, la théorie des systèmes formels, la théorie des langages formels et la théorie des génétiques est mathématiquement exactement la même théorie. Donc, mathématiquement, la théorie des langages et la théorie de la génétique est la même théorie, la même identique théorie. C'est comme quand tu es 1, 2, 3, 4 en chiffre arabe et 1, 2, 3, 4 en chiffre romain, n'est-ce pas? C'est vraiment le même théorie complètement, sauf que le continu spécifique est différent. Au lieu d'avoir des lettres qui sont des morceaux d'encre sur la page, ou des suites de sons, n'est-ce pas, des phonèmes, vous avez une suite de ces entités, de ces molécules, qui vous disent quel acide nucléique il faut fabriquer. Donc, ces gènes, qui sont des séquences linéaires, sont néanmoins arrangés sur des chromosomes. Et ces chromosomes, il y a que je pense, 46 chromosomes pour les êtres humains. Et ces chromosomes sont dans deux des paires, donc il y a 23 paires de chromosomes. Et les paires sont identiques, ok? C'est-à-dire, ils ne sont pas identiques, mais ils ont des fonctions semblables. C'est-à-dire, le jumelage des chromosomes n'est pas au hasard, ok? C'est-à-dire, le chromosome, mettons, le chromosome, les premiers deux chromosomes, le premier paire, c'est tous les deux les chromosomes qui influencent exactement le même développement, par exemple, je ne sais pas, la peau ou le cerveau ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Ils remplissent les mêmes fonctions. Donc, toutes les cellules de votre corps ont 23 paires de chromosomes, 46 chromosomes, et déjà le nombre des chromosomes est caractéristique de l'espèce. C'est-à-dire, on appelle ça le nombre chromosome. Dites-le moi, c'est l'adjectif de chromosome. Chromosomal, non. Comment? Non, c'est mâle, mais... Chromosomal, oui. C'est le nombre chromosomal, ok? Et ce nombre lui-même est différent pour chaque espèce. Par exemple, l'espèce qui est le plus proche de nous, c'est les chimpanzés. C'est les chimpanzés, c'est la configuration génétique le plus près de l'être humain. Mais déjà, le nombre de chromosomes, c'est 50 et quelques pour le chimpanzé. Donc, même le nombre de chromosomes est différent d'une espèce à l'autre. Alors, ces différences, ce sont des différences génétiques. C'est-à-dire que, encore une fois, nous partageons, attendez bien, nous partageons 99% de nos gènes avec des chimpanzés. Donc, ce n'est pas les gènes eux-mêmes qui font la différence, c'est uniquement la séquence. OK? C'est comme deux textes écrits en français, n'est-ce pas? C'est-à-dire, A, c'est A partout, n'est-ce pas? Le A ici, le A là, c'est la même lettre. Vous pouvez les changer. Et les gènes sont parfaitement échangeables, exactement comme les électrons. C'est-à-dire, un gène dans une espèce quelconque va donner exactement la même instruction. Donc, le gène dans une rose, le gène dans un serpent, va donner exactement la même instruction que ça donne si vous le mettez dans un corps humain.
Donc, ils sont...
Comment?
Dans les espèces, parce que c'est un mélange de...
C'est ça, c'est la séquence, même pas mélange, c'est la séquence, uniquement la séquence qui fait la différence. Les gènes sont identiques, ils sont parfaitement interchangeables, exactement comme les électrons. Donc le fait que nous partageons 99% de nos gènes avec, par exemple, les chimpanzés, ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, nous partageons je ne sais pas combien de nos gènes avec des serpents ou avec n'importe quelle chose. D'ailleurs, c'est une des découvertes des dernières années que le nombre total de gènes en existence dans toutes les espèces est beaucoup moins grand qu'on le pensait, parce qu'on pensait auparavant que pour chaque différence observable, il y avait des différents gènes. Mais maintenant, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'il y a quelque chose comme même... Je peux me tromper gravement ici, mais je pense que c'est quelque chose comme un demi-million de gènes qui existent, OK? Enfin, d'espèces de gènes, je veux dire, de catégories de gènes différents, OK?
Est-ce que ça voudrait dire que le gène de la peau, par exemple, il serait le même dans tout ce qui existe et qui est?
Non. Je veux dire que si vous prenez un gène individuel qui est dans la cellule de l'individu, OK, ce gène est une recette, c'est un livre, c'est un texte, c'est une recette pour produire une certaine suite d'acides nucléiques. Il y en a 4 sortes d'acides nucléiques, OK? Donc c'est une recette qui dit A, B, 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 A, c'est-à-dire, pensez à un texte écrit en 4 lettres, A, B, C, D, OK? Donc, un gène, c'est comme une suite de plusieurs milliers A, B, B, C, 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 D, 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 C, B, etc. C'est exactement ça, un gène. C'est une immense ligne de lettres, si vous voulez. Okay? Et chaque lettre, le A, veut dire fait tel ou tel acide nucléique. Le B, c'est tel ou tel autre. Ce n'est pas vraiment A, B, C, D. Je me souviens, j'aurais dû... Comment? C'est ça, oui, je n'ai pas les vraies lettres, je l'ai dans mon texte de génétique, là-bas, si vous voulez, mais ça n'a pas d'importance, OK? Comment? Non, mais je pense, c'est 4 sortes, OK? C'est tout, oui, c'est ça. Et, alors, est-ce que ça c'est clair? Ou, donc,
c'est clair.
OK, bon. Donc, c'est les gènes qui sont parfaitement interchangeables. Ils font le même effet n'importe où, exactement comme des électrons, n'est-ce pas? Ou un photon de lumière. C'est les photons qui se dégagent de cette chandelle sont identiques aux photons qui se dégagent de cette lampe. Les photons sont parfaitement interchangeables. Il n'y a pas d'individualité. Il n'y a pas d'individualité dans les gènes. Alors, et maintenant nous venons à dire qu'est-ce que c'est un être humain. Qu'est-ce qui constitue un être humain? Eh bien, il y a, j'avais dit, un léger mensonge. If you don't mind, maybe I would take some water too.
Yeah,
if you don't mind. Yeah. En voyant tout le monde qui boit. Oui. Ah, ok, merci. OK. Alors, mais si tout ce que je vous dis jusque maintenant, c'est complètement... ce n'est pas du tout clair, alors c'est inutile de continuer. Est-ce que ça va ou non? OK. Pierre-Luc, ça va? OK. Maintenant, j'ai dit que chaque cellule de votre corps contient la même recette. Ça, c'est vrai, sauf pour les gamètes. Qu'est-ce que c'est les gamètes? C'est les cellules sexuelles. C'est les cellules produites par les gonades, c'est-à-dire l'organe sexuel. Les testicules pour les hommes, les ovaires pour les femmes. C'est la cellule sexuelle, par exemple, prenez l'œuf, qu'on appelle la gamète de la femme, et le sperme, qui est la gamète pour l'homme. Enfin, c'est le terme générique, c'est gamète. Il y a la gamète femelle et la gamète mâle, l'œuf et le sperme. Donc, prenant l'œuf de la femme, cet œuf a seulement 26 chromosomes. Pas 43, 23 chromosomes, je veux dire. Pas 46 chromosomes, mais 23 chromosomes. C'est-à-dire, ça prend un chromosome de chaque paire. Vous vous souvenez, j'avais dit qu'il y a 46 paires, donc 23 chromosomes, 23 paires de chromosomes, et que chaque chromosome dans une paire gère, si vous voulez, les mêmes fonctions. Mais ils ne sont pas identiques, ok? Alors, le gamète, c'est-à-dire l'œuf de la femelle, choisit un des chromosomes de chaque paire. Et comment est-ce qu'elle choisit? C'est au hasard. Absolument au hasard. OK? OK. Et le gamète mâle a aussi 26 chromosomes et il choisit un chromosome de chaque paire. Comment? Au hasard. Donc, quand les gamètes s'unissent, ok, quand la fécondation de l'œuf a lieu, ça fait une recette complète, c'est-à-dire, de nouveau, 46 chromosomes, la moitié, littéralement, exactement la moitié de la mère et la moitié du père. Mais quelle moitié du père? Ça, c'est au hasard. C'est-à-dire, donc, deux spermatozoïdes ne sont pas identiques parce qu'il a quand même 23 choix à faire, OK? Donc, les suites possibles, c'est 2 à la 23. C'est-à-dire, vous avez 1 de 2 fois 1 de 2 fois 1 de 2 jusqu'à 23, c'est donc 2 à la 23, ok? C'est 2 fois 2 fois 2, 23 fois, qui est un nombre immense, ok? C'est un nombre immense, ok? Donc, ça c'est le nombre des choix possibles, n'est-ce pas? C'est fini, ce n'est pas infini, mais c'est quand même extrêmement grand. Donc, les chances que deux spermatozoïdes soient le même est quasiment inexistant. On n'a jamais observé deux spermatozoïdes qui ont le même, exactement les mêmes chromosomes. Okay? Et la même chose avec l'œuf. On a rarement, on n'a jamais. De toute façon, même si vous avez deux spermatozoïdes qui sont les mêmes, l'œuf se produit une fois par mois, comme nous le savons. Donc la chance qu'il y avait deux œufs qui soient les mêmes, est beaucoup plus petit, et puisque le patrimoine génétique de la personne se fait par le mariage entre le patrimoine mâle et le patrimoine femelle, même si à la rigueur vous aviez deux spermatozoïdes identiques, il y a seulement un spermatozoïde qui peut féconder l'œuf, parce qu'aussitôt que l'œuf fécondé, il y a une coquille dure qui entoure l'œuf, qui empêche que ça soit pénétré par un autre sperme. Donc, il ne peut y avoir qu'un seul spermatozoïde qui féconde un œuf. Parce qu'aussitôt que la fécondation a lieu, il y a une coquille dure qui entoure immédiatement et qui empêche la pénétration par tout autre spermatozoïde. OK.
Mais des jumeaux, ils
ont... Well, you just have to let me get there slowly. OK. you really, it's
Okay. She asked the same question.
Well, I haven't...
Ça sent bien, patience.
OK. Donc, il y a un seul spermatozoïde qui peut féconder un œuf. Et donc, ça, c'est le patrimoine génétique, moitié des chromosomes de la femme, de la mère, la moitié du père. Ce qui fait une combinaison qui, à toute fin pratique, est unique, n'est-ce pas? C'est unique, même pour deux êtres qui ont le même père et mère, n'est-ce pas? La chance que vous avez un œuf identique et un spermatozoïde identique qui féconde, etc., qui reproduisent le même être, est pratiquement impossible, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit, il a beaucoup plus de spermatozoïdes que d'œufs, évidemment, parce qu'il a des milliers de spermatozoïdes, mais même là, la chance que deux soient identiques est très faible. Mais même si vous aviez deux identiques, il y a seulement un qui peut féconder un œuf donné, et qu'il y a un autre œuf identique plus tard, et un autre spermatozoïde identique qui féconde cet œuf, ça c'est à toute fin pratique impossible. Donc, l'héritage génétique de chaque personne est unique. Maintenant, dans ce sens-là précis. Et donc, ce qui donne vos caractéristiques particulières, couleur de cheveux, tout ce que vous voulez, tempérament nerveux, etc., etc., tout ça vient de la séquence d'acides nucléiques que vos gènes fabriquent chaque fois qu'une cellule est reproduite. Okay? Et ça, je dois dire que, bon, il y a cette seule cellule, ça commence, ça s'appelle le zygote. C'est la cellule fécondée, c'est une seule cellule, et ça commence à se multiplier. Et cette recette se produit avec la chose. C'est comme si, par exemple, vous aimez, comme certaines aiment, la recette de Judith de ses desserts, ok? Et vous dites, moi j'aimerais moi-même faire le dessert, et Judith dit, je vous donne la recette pour le faire, mais à la seule condition que vous donnez la recette à toute autre personne pour laquelle vous faites le dessert. C'est-à-dire que la recette va toujours avec la chose. Ça, c'est la façon que les cellules se reproduisent. Donc, non seulement les cellules reproduisent d'autres cellules, mais elles reproduisent d'autres cellules avec la recette dans la cellule pour faire encore d'autres cellules. C'est pourquoi il y a cette étiquette, comme j'ai dit, l'ADN, dans chaque cellule de votre corps. Et une partie de cela, encore une fois, une partie de cet ADN, c'est, par exemple, il y a 46 chromosomes, il y a 23 paires de chromosomes, etc., etc. C'est-à-dire, une partie est générique, c'est ce qui est commun avec tous les êtres humains, une partie qui est unique au sein de l'espèce. Il y a différence au sein de l'espèce, mais il n'y a pas de transfert d'une espèce à l'autre espèce. Et juste pour régler une chose, pour toutes, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir, par exemple, des hybrides? Parce que, évidemment, le couplage physique peut s'accomplir entre des espèces différentes. Alors, c'est justement la différence de code génétique entre les espèces, on appelle ça le génome. Le génome est la configuration génétique qui est caractéristique de telle ou telle espèce. OK? Donc, on parle du génome humain, du génome des serpents, du génome, etc., des brebis, enfin, bon. Et c'est l'incompatibilité. Donc, on peut imaginer un spermatozoïde, par exemple, d'un être humain qui rencontre un œuf d'un cochon, par exemple. Pourquoi ça ne fait pas d'être? À cause de l'incompatibilité biochimique entre les configurations génétiques. OK? Autrement dit, par exemple, il suffit... Pourquoi un chimpanzé, un être humain, ne peut pas être croisé? Ben parce que déjà, le nombre chromosomal, je l'ai dit cette fois, du chimpanzé est différent du nombre chromosomal. Donc déjà, le couplage des chromosomes ne peut pas se faire, n'est-ce pas? Donc, déjà, ça suffit, n'est-ce pas? Ça suffit déjà pour ne pas parler d'autre chose, n'est-ce pas? Et le nombre chromosomal est caractéristique de chaque espèce, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que physiquement, la rencontre entre les gamètes de deux espèces différentes peuvent se faire, mais ça ne produit rien à cause d'une incompatibilité entre les deux. Okay? C'est ce qui garantit la séparation ou ce qu'on appelle la spécification, la séparation des espèces. Bon, alors ça, c'est une esquisse de génétique. Maintenant, posons d'abord la question suivante. Est-il possible que deux êtres humains aient exactement le même ADN, c'est-à-dire le même patrimoine génétique? La réponse est oui. Il y a un phénomène naturel et ça s'appelle les jumeaux identiques. Et comment ça se fait? Ça se fait quand, par un mécanisme qu'on ne connaît pas encore exactement pourquoi ça se fait comme ça, qu'une fois fécondé, l'œuf se scinde en deux zygotes identiques. OK? Autrement dit, c'est comme, mettons, une goutte d'eau. Vous savez, quand il y a de l'eau qui dégoutte de robinet, vous voyez comment ça se fait. L'eau s'accumule, ça fait une goutte, ça tombe. Et ensuite, ça s'accumule, et ça fait une autre goutte, et ça tombe. Et le goutte est plus ou moins rond. Pourquoi? C'est parce que la surface de tension de l'eau fait une sphère. En fait, c'est l'air, c'est la moindre air pour la quantité, le volume d'eau qui est là, en fait. C'est pourquoi les gouttes de pluie sont rondes, enfin, cette tendance à faire des sphères, c'est parce que c'est la surface, la moins grande surface qui renforme un volume donné, c'est une sphère. Alors, donc c'est exactement comme ça. Alors imaginez un zygote qui vient d'être formé. Alors pour un processus, comme j'ai dit, qu'on ne comprend pas encore exactement pourquoi, il a comme une goutte qui sort et il y a deux ou trois ou quatre, cinq zygotes absolument identiques. Et chacune de ces cellules se développe au sein de la matrice, de la mère, et dans les meilleures conditions, viennent à terme et naissent comme des bébés et normaux, comme des cinq, les quintuplés, dionnes, enfin, qu'on avait eu ici au Canada il y a une génération et tout ça. Donc, les jumeaux, ou les triplés, bien sûr, identiques, ont exactement le même patrimoine génétique. Mais pas parce que il y a des spermatozoïdes identiques qui ont fécondé des œufs identiques parce que le zygote, une fois formé, se scindait en deux parties identiques. OK? C'est littéralement deux êtres. OK? Alors donc, ça répond d'abord à une première question. Est-ce qu'il est possible pour deux personnes différentes d'avoir exactement le même patrimoine génétique? La réponse est oui. C'est un phénomène naturel qui dure depuis la nuit des temps, et ça s'appelle les jumeaux identiques. Juste pour régler la chose, les jumeaux non identiques, c'est quand il y a deux œufs qui se produisent, OK? Parce qu'habituellement, c'est simplement un œuf pour un mois, mais parfois, la femme peut produire deux ou trois œufs, OK? Et évidemment, les spermatozoïdes sont en milliers, n'est-ce pas? Alors donc, dans ce cas-là, chacun de ces œufs est fécondé par un spermatozoïde différent. Donc, les jumeaux non identiques sont simplement deux êtres avec un patrimoine génétique complètement différent qui habitent par hasard la même matrice, n'est-ce pas, pour 9 mois. Mais autrement, ils auraient pu. Ils n'ont pas de lien, c'est-à-dire génétique, il n'y a pas de lien. Ils sont aussi différents, c'est ça, mais ils sont aussi différents que n'importe quel deux frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes parents, mais ils ne sont pas plus liés par le fait d'avoir habité la même matrice. OK? C'est ça que je veux dire. OK? Ça va? OK. Alors, est-ce que maintenant on a clarifié l'histoire des jumeaux identiques? Les jumeaux identiques, ce n'est pas des œufs différents qui ont été fécondés par des spermatozoïdes différents. C'est exactement le même zygote qui se scinde en deux parties identiques. Mm-hmm. Par un processus qu'on ignore. On ignore encore. Évidemment, malheureusement, cette séparation peut être partielle. OK? Et c'est ce qui donne lieu à des jumeaux siamois, n'est-ce pas? Cette séparation peut être partielle, et ça peut être plus partielle ou moins partielle, n'est-ce pas? En fait, on a vu des choses, enfin, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais par exemple, on a vu même les jumeaux identiques qui avaient des siamois, qui avaient vraiment le même corps, sauf pour la tête, qui avaient deux têtes différentes. On a vu aussi parfois qu'ils partagent certains organes ensemble et pas d'autres, etc. Donc, ça veut dire que donc, la séparation peut avoir lieu au tout début, comme j'ai dit, ou ça peut avoir lieu plus tard dans le processus de développement, dans quel cas vous avez les jumeaux siamois. Mais j'écarte pour le moment la question des jumeaux siamois, et je parle juste des jumeaux identiques, normaux. Alors, maintenant, je vais jouer au professeur de nouveau. Je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qui fait que ces deux personnes sont différentes? Qu'est-ce qui fait que ces deux êtres humains sont différents? Vous avez jamais connu des jumeaux identiques? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais connu des jumeaux identiques? Tu as connu des jumeaux identiques? Ok, ben ça suffit, ok. Ok, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents? Parce qu'ils ont exactement le même patrimoine génétique.
L'expérience.
Comment? Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est deux personnes différentes qui peuvent recevoir une éducation différente? C'est-à-dire, si on dit que l'être humain n'est rien d'autre que sa patrimoine génétique...
La partie que Dieu met comme potentiel, ça, c'est pas dans... C'est...
Où réside ce potentiel que Dieu met?
Je pense que ça ne doit pas être dans le génétique. Là. Ça, c'est matériel, c'est humain. C'est-tu dans le génétique, non?
La... Où est-elle, alors?
Inné, c'est spirituel.
Ce que j'ai entendu dire, là, c'est que... En tout cas, c'est un reportage que j'ai vu, là. C'est que même par la génétique de la personne, tu peux pas rien changer si... Comment je peux dire ça? Si la génétique va décider comment va être son...
Et les génétiques peuvent aussi influencer l'éducation, la façon qu'on réagit, par exemple. Mm-hmm. Mais ici, nous sommes devant deux personnes qui ont la même génétique. Et donc, je pose la question inverse, c'est-à-dire, comment est-ce qu'ils peuvent être différents? On a dit, OK, c'est des potentiels spirituels, et j'ai dit, où est ce potentiel spirituel qui est différent, parce que ce n'est pas dans la génétique, parce que la génétique est identique.
Dans l'âme.
OK, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme qui n'est pas physique. OK, donc c'est l'âme, donc ça veut dire que l'être humain ne se réduit pas tout simplement à sa génétique. Il y a aussi l'âme, qui n'est pas une chose matérielle, qui est créée par Dieu, et l'âme est le siège de la conscience de l'individu, de la personnalité. Donc, ce sont deux êtres humains différents, deux âmes différentes, dans des corps identiques. OK? Donc, ce n'est pas l'identité de génétique qui fait qu'on a les mêmes personnes. OK? Vous êtes d'accord avec ça? D'ailleurs, ils ont même détecté des différences significatives dans, par exemple, ils peuvent même faire des tests d'intelligence, même dans le ventre de la mère. Ils ont certaines façons maintenant de tester des réponses aux enfants, même dans le ventre de la mère et juste après la naissance. Et ils ont détecté toutes sortes de différences entre les jumeaux identiques, même dans le ventre de la mère, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, et tout de suite après la naissance, c'était avant qu'ils aient subi une éducation quelconque, au tout début, ils peuvent faire des tests et ils peuvent détecter des différences parfois très significatives entre les jumeaux identiques, okay, dans leur façon de réagir. Donc, je mentionne ça parce que ça montre, de point de vue strictement scientifique, on voit qu'il a des différences. Donc, il a des différences observables. Ce n'est pas simplement la métaphysique qu'on fait. Il a des différences observables dans le comportement, dès le début, dans le comportement de deux jumeaux identiques. OK? Et nous, évidemment, nous pouvons ajouter la métaphysique Baha'i en disant, mais voilà, où réside cette différence? Ça réside dans l'âme, que ce sont deux âmes différentes qui habitent, comment?
Uniques,
mais qui habitent des corps identiques. OK?
Mais qui ne sont pas à l'intérieur des corps.
Mais comme vous voulez le dire, oui. OK. Maintenant, donc, on a réglé la question suivante. Est-ce qu'il est possible pour deux êtres d'être génétiquement identiques et avoir des consciences différentes, d'être différentes personnes? La réponse est oui. Oui, on sait ça depuis la nuit des temps. Depuis toujours, il y a eu des jumeaux identiques. Alors, qu'est-ce que c'est le clonage? Le clonage est simplement une façon artificielle de produire des jumeaux identiques. C'est tout ce que c'est le clonage. Donc il faut démystifier le clonage. La façon que ça se fait, c'est évidemment une manipulation de génétique. On prend une cellule de la personne. OK, on prend l'ADN, on prend le noyau, tout ça c'est ce qu'on appelle dans le noyau de la cellule. On prend cette matière, on l'injecte, on remplace dans le zygote, donc dans l'être unicellulaire, on remplace le génétique qui est là. OK, parce que forcément, il a une génétique quelconque, autrement, ce n'est rien, OK. Et on le remplace avec une autre génétique, OK. Mm-hmm. Cette autre génétique, c'est identique avec la génétique de quelqu'un qui existe déjà. Donc, on dit que cette personne qu'on vient de former est le clone de la personne d'où on a pris la matière génétique. Donc, on fabrique tout simplement un jumeau identique. C'est tout ce que ça se fait, n'est-ce pas? Maintenant, une chose très importante, parce qu'il y a des gens qui disent, mais on va bientôt fabriquer la vie, où on parle souvent à la légère de fabriquer la vie. Il ne s'agit absolument pas de fabriquer la vie. On part de la vie pour aboutir à la vie. Il n'y a aucune façon connue, mais absolument aucune façon de synthétiser la vie ou de créer la vie dans une épouvette, comme on dit souvent. Il n'y a aucune façon de faire ça. On peut modifier la vie une fois que ça existe par la manipulation génétique, mais on ne peut pas créer la vie à partir d'une envie. On ne peut pas créer un être vivant à partir des substances, des composantes non vitales. Okay? Et Abdu'l-Bahá dit que ça ne serait jamais possible. Il dit l'étincelle de la vie vient uniquement de Dieu. Il dit même si l'homme a rangé toutes les composantes qui font un être humain dans les proportions exactes qu'on retrouve dans l'être humain, alors à ce moment-là, donc si par exemple il crée un génétique synthétique qu'il fabriquait lui-même, ça ne serait pas un être vivant, dit Abdu'l-Bahá, l'homme ne pourra jamais créer la vie, dit Abdu'l-Bahá. Maintenant évidemment, ça, c'est une affirmation, encore une fois, métaphysique, qui va au-delà de ce qu'on peut affirmer du point de vue purement scientifique. Mais ce qu'on peut affirmer du point de vue scientifique, c'est qu'il n'y a absolument aucune façon connue ou envisagée ou envisageable qui nous permettrait de synthétiser la vie. Okay? Donc,
c'est comme de partir à zéro.
Hein? C'est comme partir de zéro.
Créer les éléments qu'il faut mélanger.
C'est ça, c'est ça.
Tandis que dans le clonage, les éléments sont là, ils les prennent, ils les manipulent.
C'est ça la chose importante.
Donc, c'est que la technologie moderne qui donne lieu aujourd'hui à cette possibilité
de manipulation, mais pas de création.
Pas de création.
Mm-hmm. OK, mm-hmm. C'est ça. On a pas, comme Huguette dit, on ne part pas de zéro. C'est ça, exactement ça. Mm-hmm. On commence avec un être vivant, on termine avec un être vivant. Seulement, on a changé sa génétique et on a remplacé sa génétique naturelle par une génétique aussi naturelle. Discuter tant qu'on veut. On commence avec un être naturel par des manipulations artificielles. On remplace cet être naturel par autre être naturel, tout aussi naturel, ok, mais qui a la même génétique qu'un autre être déjà existant. Donc, c'est essentiellement la création d'un jumeau identique, ok? C'est-à-dire, c'est ce que fait aussi dans la matrice de la mère des jumeaux identiques. Mais évidemment, là, on ne connaît pas le processus, pourquoi l'œuf se sépare de cette façon-là, ou les zygotes se séparent en deux parties comme ça. Mais on sait que ça existe. Donc, ça répond définitivement à une question. Les gens parlent, enfin, vous savez tous, qu'on fait de toutes sortes de choses, que la clone serait la même personne, que la même personne, ça serait l'immortalité sur Terre, que la personne peut se reproduire à l'infini et tout ça. Comme si c'est la même personne qui se reproduit, mais ce n'est pas la même personne du tout. Pas plus que deux jumeaux identiques, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même personne du tout. Donc, oui. Comment? Oui, je vous en prie.
Non, c'est parce que moi, ce que j'ai entendu dire, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est qu'il parlait de reproduction d'organes.
Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose, OK?
Pour parler d'immortalité.
C'est ça. Mais je veux d'abord régler la question qu'on pose souvent, à savoir, est-ce qu'un clone, enfin, l'idée court, enfin, qu'un clone... Enfin, on a ces films de science-fiction et tout ça, où le clone, on ne sait pas qui est le clone et qui est la vraie personne, et toutes ces histoires-là. Mais tout ça, c'est simplement de la foutaise, OK? Mm-hmm. Ça, c'est de la foutaise. La clone serait simplement une toute autre personne qui a un patrimoine génétique identique à l'autre. Alors, donc, ça doit démystifier un tas de choses autour de cela, n'est-ce pas? Donc, est-ce que le clone aura une âme? Mais bien sûr, le clone aura une âme. Le clone, c'est un être humain naturel, mais qui artificiellement a été doué de le même patrimoine génétique qu'un autre être humain, exactement comme un jumeau identique. Maintenant, deux autres questions à traiter, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que de faire cela? OK. À quoi ça sert, n'est-ce pas? Alors d'abord, la question éthique, c'est évidemment, tourne autour et tout le monde est à peu près d'accord de dire qu'il y a des questions éthiques très importantes, OK? La question éthique, c'est évidemment à quel point est-ce que c'est juste de manipuler à ce point-là la vie humaine. Plus précisément, pour chaque clonage réussi, il y a des centaines et des centaines de non-réussis. D'abord, on peut se poser la question. Ça c'est un deuxième temps, je vais poser la question. Donc, ça soulève la possibilité des clones moitié réussis, n'est-ce pas? Donc, qui souffrent de toutes sortes de maladies génétiques ou autres, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'en jouant ainsi avec le patrimoine génétique, on risque d'imposer une vie de misère à une pauvre personne. Et pour quelle raison, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour quelle raison on fait ça? Supposons que la personne est un monstre, en fait, est tout à fait mal formée, etc. Vous ne pouvez rien faire une fois que la personne est formée, n'est-ce pas? À moins que vous voulez l'assassiner, tout simplement. Donc, vous avez, pour ainsi dire, imposer sur une âme, ok, une vie de misère, pour aucun but, enfin, simplement pour la manipulation de la chose, n'est-ce pas? Donc, la première question éthique donc, dérive du fait que le processus de clonage est loin d'être, pour ainsi dire, à point, que les non-réussites sont beaucoup, beaucoup plus fréquent que les réussites. Entre guillemets, réussite, parce que qu'est-ce que c'est une réussite, on ne sait pas.
En tout cas, il n'y a pas d'amour certain. Quand tu te mets là à manipuler des petites affaires pour mettre une partie de là, puis là, c'est quoi?
Oui. Mais la deuxième question, qui est, à mon avis, aussi importante, c'est pourquoi on fait ça? Maintenant, il y a une sorte de philosophie de la science qui existe depuis le début, depuis au moins le temps de la Renaissance, et peut-être même avant, que tout ce qu'on peut faire doit être fait. C'est-à-dire que si on sait faire quelque chose et on choisit de ne pas le faire, que ça arrête le progrès scientifique. C'est-à-dire que la possibilité de faire une chose est un impératif pour faire la chose. Je dis que c'est une certaine philosophie. Je dis pas. J'ai connu des personnes qui pensent comme ça, n'est-ce pas? Et on peut quand même faire certains arguments assez, disons, qui semblent tenir jusqu'à un certain point. Dans ce sens-là, on peut parler, par exemple, dans le passé, où on se moquait de Pasteur, on se moquait de Leeuwenhoek, enfin, qui a été le premier à démontrer qu'il y avait des bactéries et tout ça. Et Pasteur qui avait inventé, enfin, par exemple, la vaccination et tout ça. Même, donc, il y a même des gens encore vivants qui ont assisté à la démonstration de Pasteur à la Sorbonne que c'était les microbes qui causaient la putréfaction, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est, il y a 100 ans à peine que tout le monde croyait dans ce qu'on appelle la génération spontanée, n'est-ce pas? On disait, mais voilà, c'est simplement... si vous laissez de la viande et tout ça, et puis quelques jours plus tard, il a des microbes qui l'entourent, enfin, des excroissances et tout ça, enfin, bon, c'est putréfié, ben c'est là où on voit les mouches ou je ne sais pas quoi, bien, c'est la génération spontanée. Alors donc, Pasteur avait conçu une chose où il avait mis une chose dans l'isolation complète, n'est-ce pas? Et l'autre, il avait exposé à l'air et tout ça, et puis il avait finalement démontré à la satisfaction de tout le monde que c'était des microbes portés par l'air qui donnaient lieu au processus de putréfaction, etc. Donc ça, c'est très récent. Comme je dis, ça c'est extrêmement récent, à peine 100 ans qu'on connaît même cela. Alors, par exemple, un autre exemple très simple, qui est très actuel, on sait que la petite variole a été enradiée de la Terre. Maintenant, il y a des fous qui veulent refabriquer, en fait, ce virus pour la guerre biologique. Mais le fait qu'on peut fabriquer toutes sortes de virus... C'est certainement pas un impératif pour qu'on les fabrique, n'est-ce pas? Enfin, donc, je pense qu'on peut réfuter assez facilement cette logique, l'impératif du possible, ok? L'impératif du possible, c'est un impératif pour des gens qui ne pensent pas, n'est-ce pas? Qui ne pensent pas. Néanmoins, il faudrait quand même... À ce moment-là, dire où est la frontière entre le faisable et le désirable. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la question n'a aucune importance. On ne peut pas dire que la question n'a aucune importance. Et il est vrai que dans le passé, il y avait beaucoup d'expériences scientifiques très valables. Par exemple, je vous donne un exemple très... Même l'Église catholique, par exemple, défendait la dissection des corps, n'est-ce pas? On disait que ça profanait, que le corps était le temple de l'âme et tout ça. Et on raconte, par exemple, comment Michel-Ange, le grand sculpteur, il a payé des croque-morts pour lui passer des corps des gens pour qu'ils puissent les étudier, ils les disséquaient, ils les étudiaient, enfin les muscles et tout ça, pour pouvoir faire ces sculptures et tout ça. Et donc l'anatomie, donc il avait même un temps, par exemple, quand l'anatomie était défendue, c'était défendu de jouer avec des corps morts, des êtres humains, etc. Maintenant, on a toute l'histoire des animaux, par exemple. Est-ce qu'il est permissible, éthiquement ou non, de faire des expériences sur les animaux? On donne des maladies à des animaux, enfin, on donne des cancers aux rois, etc. Est-ce que ça, c'est éthique ou non? Abdu'l-Bahá a dit qu'il est permissible d'expérimenter sur les animaux en autant que les animaux ne souffrent pas. Autant que les animaux ne souffrent pas. Maintenant, l'informatique, les progrès dans l'informatique donnent la possibilité à des gens maintenant qui prennent la chose suivante, qu'on peut faire des expériences virtuelles, n'est-ce pas, par l'informatique, qu'on n'a plus à sacrifier les animaux, qu'on peut construire un modèle informatique d'un processus de métabolique des animaux avec une telle précision qu'on peut faire des expériences virtuelles. Il est possible qu'on arrive à cela, mais on n'est pas encore là, et de toute façon, il est évident qu'on ne serait même jamais près de cela si on n'avait pas fait pendant des années des expériences sur les animaux. Et il y a bien des maladies humaines dont on n'aurait jamais, mais jamais découvert le traitement si on n'avait pas fait des expériences sur les animaux. Alors, moi, je ne veux pas régler cette question, je ne prétends pas régler, mais je dis tout simplement que, OK, on admet que le faisable et le désirable, ce n'est pas la même chose. Mais où est la frontière, donc, entre le faisable et le non désirable et le faisable désirable? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais je pense qu'il faut dire au moins il faut avoir un but précis avant de faire une chose comme le clonage. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un nous dise pour quel avantage on va faire à faire du clonage de notre humain avec tous les risques que ça apporte, de tous les ratés, de créer des monstres, etc. Pourquoi on fait ça? Dans quel but on fait cela? Maintenant, les cellules de souche, enfin, j'ai juste mentionné ça parce que tu mentionnes ça, mais je veux arrêter. Les cellules de souche, ce sont des cellules... OK. Tu veux vraiment savoir? OK.
Tu voulais savoir la traduction.
OK, OK. D'accord. Alors, je vous épargne tout ça. Je vous épargne tout ça. Mais il y a une grande controverse autour des cellules de souche. Ce sont des cellules de souche, sont en principe des cellules de l'embryon, avant la différenciation. Non. Non, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le foetus se développe, il y a la différenciation. Par exemple, les cellules, les organes, la différenciation.
C'est combien de semaines après que c'est fécondé, c'est-tu?
Ça commence quasiment tout de suite, n'est-ce pas? Enfin, ça commence quasiment tout de suite, mais ça se procède par étapes, n'est-ce pas? Donc, si vous prenez la cellule d'un adulte, cette cellule, la fonction est bien définie. C'est-à-dire, si vous prenez la cellule dans votre pied, ce n'est pas du tout le même que la cellule dans votre cerveau, n'est-ce pas? Il y a différenciation qui a eu lieu. Donc, vous ne pouvez pas remplacer une cellule malade du cerveau par une cellule de votre pied, parce que ça va pas remplir la même fonction, parce que c'est différent quant à sa fonction, et cette différence se reflète par la structure de la cellule. Pas la structure génétique, mais par la structure fonctionnelle. Alors, l'histoire des cellules de souche, c'est de prendre des cellules de l'embryon avant la différenciation. Et donc, ces cellules ont une certaine flexibilité parce qu'ils ne sont pas encore définis ou différenciés dans cette façon-là. Et on a l'espoir que ces cellules de souche peuvent servir, par exemple, à remplacer, à guérir des maladies neurologiques, en fait, où il y a des dommages aux cellules nerveuses et tout ça. Mais.
Comme l'Alzheimer,
Parkinson's, etc. Enfin, oui. Alors, voilà un petit tour de la question. Et puis, voilà, je vous laisse en paix avec tout ça.